Chers téléspectateurs, chers amis, bienvenue à la deuxième partie de notre table ronde consacrée au thème « La parole prophétique dans le courant du christianisme des origines, aujourd'hui et à toutes les époques, et la tentative d'éliminer les communes des origines, tous ceux qui étaient dans le sillage de Jésus de Nazareth ». Nous sommes des chrétiens des origines, dans le sillage du Christ de Dieu, le Fils de Dieu, notre frère et rédempteur. Au cours de sa vie sur terre, en Jésus de Nazareth, il a annoncé la venue de prophètes après lui. Ainsi, on peut lire dans la Bible « C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ». À notre époque, le séraphin de la sagesse divine s'est incarné en Gabriel Sophia en tant que prophétesse et messagère de Dieu. Au cours des 50 années précédant son retour dans la maison éternelle du Père, par son action infatigable, en union et en relation profonde avec le Christ, ainsi qu'avec Dieu l'Éternel, elle a accompli la promesse faite par Jésus de Nazareth, à savoir « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les porter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. »
Chers amis, dans la première émission de cette série, nous avons vu qu'au cours des siècles qui ont suivi la venue de Jésus de Nazareth, le royaume de Dieu a régulièrement envoyé des prophètes et des prophétesses de Dieu sur terre, dans les communes des origines qui étaient dans son sillage. En outre, dans le courant du christianisme des origines, grâce à leur dévouement au Christ, ils ont également préparé l'atmosphère spirituelle pour que toute la vérité puisse être révélée à notre époque. L'annonce de Jésus de Nazareth concernant les temps qui suivront sa vie sur terre était claire. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ». Cependant, les premières communautés influencées par Paul, docteur de l'Église, s'éloignèrent déjà de l'enseignement du Christ de Dieu. Des évêques, exclusivement des hommes, se placèrent à leur tête, les femmes furent obligées de se taire, des conceptions basées sur la soumission à l'autorité et à la domination des autres prirent le dessus, et la parole prophétique se fit de plus en plus rare. Il en résulta ce qu'on appelle le catholicisme primitif, dont découla, à partir du IVe siècle, l'Église catholique d'État, sous le règne de laquelle les prophètes et les prophétesses envoyés par la sagesse de Dieu furent cruellement persécutés dès le début. L'Église catholique introduisit des dogmes, des sacrements et des cultes, dérivés principalement d'anciens cultes païens, mêlés à certains aspects de l'enseignement de Jésus de Nazareth, afin de donner l'impression trompeuse d'être chrétien. Des historiens allemands de renom, tels que Karlheinz Teschner ou le professeur Hubertus Minarek, ont largement prouvé et documenté cette pratique constante de l'Église. Dans l'ensemble, ce nouveau pouvoir religieux correspondait donc à un nouveau système Baal, du nom du dieu des idoles Baal, tel qu'il est appelé dans l'Ancien Testament de la Bible.
L'Empire romain, avec son dirigeant religieux suprême, l'empereur, appelé Pontifex Maximus dans cette fonction, avait déjà persécuté les premiers chrétiens, leur commune des origines, ainsi que les messagers de Dieu, pour la seule raison qu'ils restaient fidèles au Dieu d'amour et refusaient de se soumettre au système dominateur guerrier et à ses cultes religieux. La persécution s'intensifia au cours des siècles suivants, respectivement sous les nouveaux Pontifex Maximus. Ainsi, à partir du Ve siècle, ce n'est plus l'empereur romain qui était désigné ainsi, mais le chef de l'Église, le pape. L'Église institutionnalisée entra ainsi dans le sillage de ceux qui avaient fait assassiner Jésus de Nazareth. Aujourd'hui encore, l'Église affirme qu'un changement a eu lieu concernant les prophètes annoncés par Jésus de Nazareth pour les communes des origines, à savoir que la mission prophétique aurait été transmise aux prêtres de l'Église catholique lors de leur ordination. Or, Jésus de Nazareth n'a jamais mis en place de prêtres, de pasteurs ou des évêques, ni ordonné la construction d'églises faites de main d'homme. Comme on peut le lire dans la Bible, il dit « Vous êtes le temple de l'Esprit-Saint, et le royaume de Dieu est en vous ». Autrement dit, Dieu est en nous, dans tous les animaux, ainsi qu'en toute forme de vie. Dans son sermon sur la montagne, Jésus, le Christ de Dieu, a enseigné sans ambiguïté l'amour pour Dieu et pour le prochain et a insisté sur la nécessité de ne pas seulement croire en ses paroles, mais surtout de mettre en pratique leur contenu, c'est-à-dire de les accomplir. Il n'a parlé ni de sacrement, ni de cérémonie, ni de dogme ou de liturgie. Il n'a jamais nommé de pape. Personne ne devrait attribuer à ceux qui sont dans le sillage de Jésus le titre spirituel de « Père ». C'est également ce qu'on peut lire dans la Bible. « N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. » Pour les chrétiens des origines, le Père céleste, Dieu, l'Éternel, le Dieu Père-Mère, est également le seul Saint. Toutefois, la jeune Église catholique d'État d'alors inversa en son contraire ce message chrétien on ne peut plus clair et aujourd'hui encore, elle vénère son pape comme étant le Saint-Père. Le conflit entre prêtres et prophètes, qui éclata dès le IIe siècle, n'était pas nouveau. Depuis longtemps déjà, une lutte spirituelle oppose tous les véritables prophètes et prophétesses de Dieu au clergé. L'action néfaste des différentes castes des prêtres dans l'histoire de l'humanité peut se résumer en ces quelques mots. Éliminer l'esprit. Et c'est ce que montre l'histoire de l'Église depuis lors, de siècle en siècle.
Mais l'Esprit vivant de Dieu n'a jamais pu être éliminé. Au cours des presque 2000 ans qui se sont écoulés, la parole prophétique du courant du christianisme des origines a toujours été présente au sein des communes des origines, permettant à Dieu, l'Éternel, au Christ et à d'autres êtres spirituels élevés du royaume de Dieu de s'adresser aux êtres humains. Parallèlement, la parole prophétique et les communes des origines furent toujours cruellement persécutés. Dans la première émission de cette série, nous avons notamment rappelé le sort de chrétiens des origines appelés par l'Église montanistes, manichéens, pauliciens ou bogomiles, les traducteurs et porte-parole du royaume de Dieu, les porteurs de la parole prophétique, ont toujours eu un sort particulièrement douloureux, ce qui est encore le cas à notre époque. Dans son livre « Prophetische Denke », penseur prophétique de Walter Nigg, le théologien suisse de renom, écrit à ce sujet, je cite, « Le Dieu qui parle est ce qu'il y a de plus puissant dans le phénomène prophétique. Les prophètes mènent une lutte passionnée pour l'âme du peuple. Ils ont élevé cette voix qui défend la justice. Aussi différente que fut la vie de chaque prophète, ils ont tous en commun un destin extrêmement difficile. Les prophètes n'ont jamais été accueillis à bras ouverts, leurs contemporains ont toujours opposé une forte résistance à leurs paroles. Leur vie fut sans exception pesante, ils ont souvent donné une expression poignante à des souffrances indicibles. Être prophète est l'une des destinées les plus difficiles pour un être humain. » Fin de citation du professeur Walter Nigg dans son livre intitulé « Penseur prophétique ».
Avant de nous intéresser concrètement à l'action d'autres prophètes de Dieu dans la deuxième émission de notre série, nous souhaitons aborder ici quelques points fondamentaux sur la parole prophétique, ainsi que sur les femmes et les hommes justes. Tous les prophètes et messagers de Dieu en mission divine n'avaient pas encore atteint la perfection intérieure que Jésus de Nazareth a décrite dans son sermon sur la montagne comme étant l'objectif de la vie terrestre pour tous les êtres humains de bonne volonté. Je cite « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Dans de nombreux cas, la parole prophétique qu'il transmettait n'était donc pas encore la parole de Dieu dans sa pureté absolue. Éventuellement, ils dirent parfois certaines choses qu'ils corrigèrent par la suite. De nombreuses incarnations de prophètes de Dieu étaient également des incarnations dites d'apprentissage, au cours desquelles ils pouvaient prendre conscience de certaines attitudes erronées encore en eux et les régler. Au cours de ces incarnations, ils étaient préparés à une mission plus importante lors d'une incarnation ultérieure. Dans ce cas, chaque défaut encore présent en eux offrait une faille permettant à leurs adversaires au sein des églises de les attaquer.
Tout comme un diamant doit être taillé, le Christ, le Dieu Père-Mère éternel ainsi que le royaume de Dieu, formèrent leurs messagers sur terre avec l'amour divin et la rectitude divine. Ce qui, pour chacun d'entre eux, s'accompagna généralement de grands sacrifices et de luttes intérieures, afin de pouvoir finalement agir pleinement dans le courant du christianisme des origines. Les porte-paroles de Dieu agirent en dehors de l'Église institutionnalisée et principalement dans les communes des origines. Cependant, Dieu, l'un universel et éternel, envoya régulièrement ses porte-paroles dans les églises institutionnalisées, où ils n'étaient toutefois autorisés à s'exprimer que dans les églises et les monastères. Leur message était alors censuré et falsifié par les prêtres avant d'être intégré à la doctrine de l'Église. À partir du Moyen Âge notamment, le système Baal ressuscité tenta d'intégrer dans ses rangs, allant jusqu'à les canoniser, des prophètes et des prophétesses à ses propres fins politiques et non chrétiennes. C'est surtout à notre époque que de telles falsifications ont été de plus en plus dévoilées. Cela a contribué à réhabiliter le Christ, ainsi que de nombreuses femmes et hommes justes qui lui sont restés fidèles, ainsi qu'à sa parole. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en poursuivant notre rétrospective commencée dans la première émission de cette série.
Hildegard Bingen était une prophétesse allemande du XIIe siècle dont les révélations couvraient presque tous les domaines de la vie, allant de l'alimentation à l'architecture, en passant par l'habillement, la musique et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui encore, ces idées sont considérées comme précurseurs, notamment dans les domaines des sciences naturelles et de la médecine. À travers elles, le royaume de Dieu a transmis de multiples façons ce qu'est l'unité de toutes les formes de vie, comme dans le message qu'elle vivait elle-même. Toute créature est reliée à une autre, et tout être est maintenu en vie grâce à un autre. C'est ainsi qu'Hildegard de Bingen est aujourd'hui considérée comme une pionnière de la physique quantique. Un petit dessin contemporain la représente avec des flammes au-dessus de la tête. Elle a également parlé elle-même de la façon dont elle a été appelée à devenir prophétesse de Dieu. Je cite, « En l'an 1141 de l'incarnation de Jésus-Christ, alors que j'avais 42 ans et 7 mois, une lumière ardente accompagnée d'éclairs est descendue du ciel. Elle a traversé mon cerveau et embrasé ma poitrine. Et soudain, le sens des Écritures m'est apparu. J'ai alors entendu une voix venant du ciel qui me disait « Écris ce que tu vois et ce que tu entends. »
Mais Hildegard, qui était très humble, ne voulait pas être prophétesse de Dieu au départ, jusqu'à ce qu'une maladie la conduise à accepter sa mission divine et à devenir porte-parole et traductrice, transmettant les révélations divines et écrivant ce qu'elle voyait dans ses visions intérieures. Elle-même racontait « Je ne vois pas toutes ces choses avec mes yeux extérieurs et je ne les entends pas avec mes oreilles extérieures. Je les vois uniquement en moi-même, mais avec mes yeux physiques ouverts, de sorte que je ne tombe jamais dans l'inconscience d'une extase, mais que je contemple cela éveillé, de jour comme de nuit. » Elle résuma tout cela dans la phrase suivante « Je vois, j'entends et je sais en même temps. » En tant que prophétesse de Dieu, Hildegard de Bingen critiquait l'hypocrisie des dignitaires et des croyants lorsque leurs belles paroles ne correspondaient pas à leurs actes. Elle comparait les dirigeants de l'Église à « des loups prédateurs qui dévorent des brebis, car ils sont plus des tentateurs que des enseignants ». Fin de citation. Ou littéralement « vous êtes la nuit qui exhale les ténèbres, et vous êtes comme un peuple qui ne travaille pas et qui, par indolence, ne marche pas dans la lumière ». L'avarice, la richesse, le plaisir, voilà les signes qui caractérisent votre vie. Elle alla même jusqu'à qualifier le pape Anastase IV de blasphémateur. Mais Hildegard contredisait et rectifiait également les personnes fanatiques qui la comprenaient mal et qui, déformant la vérité, voulaient faire d'une ascèse masochiste la norme d'une vie dans le sillage du Christ.
L'un des évêques de l'époque affirma même « Je crois que la prophétie d'Hildegard provient directement de la ruse du diable. » En revanche, d'autres ecclésiastiques la louaient, notamment parce qu'elle aurait approuvé une croisade contre la colère des païens, bien que cela ne corresponde pas du tout à ce que l'on sait d'elle. En effet, les croisades au nom du Christ n'étaient pas seulement dirigées contre les soi-disant païens ou les musulmans, mais aussi contre le Christ et son enseignement de la paix, et contre Dieu l'Éternel. Si Hildegard avait vraiment approuvé une telle croisade, elle aurait ainsi pris position contre le Christ. Elle fit elle-même une mise en garde révélatrice contre le fait de déformer, de falsifier ou de passer sous silence le message du christianisme des origines qu'elle transmettait. Par exemple, si quelqu'un, je cite, « cache sans raison valable ses paroles issues de Dieu, les abrège avec colère ou les met de côté en un lieu inconnu à cause d'un sentiment de nature humaine et de ce fait ne les prend pas au sérieux. » Malgré les nombreuses hostilités dont elle a été la cible, Hildegard de Bingen n'a pas été condamnée comme hérétique par les autorités ecclésiastiques, même si sa vie terrestre a souvent été menacée. Dans le cas d'Hildegard, l'Église de Rome opta pour une autre stratégie perfide, à savoir s'approprier la parole prophétique au lieu de la combattre, et dans ce but, la censura conformément aux impératifs de l'Église. Plus tard, elle fit d'Hildegard une sainte de l'Église, et même en 2012, un docteur de l'Église. En réalité, il s'agit là d'une dégradation et d'un dénigrement. En effet, Hildegard de Bingen n'était pas un docteur de l'Église. Elle était une prophétesse de Dieu. Qui lui a donc retiré son statut de prophétesse de Dieu pour l'abaisser au rang de docteur de l'Église? Et s'est-on demandé si c'était vraiment ce qu'elle voulait?
Pendant qu'Hildegard de Bingen œuvrait en Allemagne, le christianisme des origines des Cathares fleurissait dans le sud de la France. Cathares vient de Catharois, c'est-à-dire les purs. Ils n'avaient ni dogme ni liturgie ecclésiastique superficielle. Ce qui comptait pour eux, c'était l'amour pour Dieu et pour le prochain vécu. On attribue ainsi à leur communauté le qualificatif d'Église de l'amour, dont il est dit, entre autres, qu'elle vit dans la conscience que la terre entière est un être vivant dont nous sommes une partie. Ou encore, elle n'admet aucune hiérarchie ni structure rigide dans ses rangs, car nul n'est plus grand qu'un autre. De plus en plus de personnes se joignirent aux Cathares ou entretinrent de bonnes relations de voisinage avec eux. Le sud de la France connut avec eux une période de prospérité sans précédent. Cependant, comme ils ne s'étaient pas soumis au pape de Rome et à la hiérarchie ecclésiastique française, au début du XIIIe siècle, le pape ordonna d'exterminer les Cathares lors d'une croisade. Bernard de Clairvaux, abbé et docteur de l'Église, faisait partie de ceux qui appelèrent à la guerre contre eux et contre les musulmans. Il dut toutefois admettre à propos des Cathares, je cite, « qu'il n'y a rien de plus chrétien que ces hérétiques. Quant à leur conversation, on ne peut y trouver rien de blâmable, et leurs actes sont en accord avec leurs paroles. Quant à la moralité de ces hérétiques, il ne trompait ni n'opprimait personne, et ils travaillaient de leurs mains pour gagner leur vie. Néanmoins, il exigea « Poursuivez-les, capturez-les et n'hésitez pas à tous les faire périr. »
Parmi eux se trouvaient également des prophétesses et des prophètes de Dieu qui faisaient revivre la parole vivante de Dieu au sein des communes des origines des Cathares. C'est ainsi que les communes reçurent, entre autres, des explications sur les événements sataniques de la chute, mais également sur le chemin permettant de retourner dans la patrie éternelle. Les Cathares apprenaient comment il est possible de vivre dans le présent selon les commandements de Dieu et recevaient des connaissances profondes, notamment sur les plantes médicinales ou sur la manière dont l'esprit et la nature agissent en harmonie. Ils étaient tolérants envers les catholiques et leur symbole était une colombe blanche. Pourtant, les armées papales perpétrèrent sur eux des massacres inimaginables. Selon une légende catholique, l'inquisiteur catholique Dominique aurait reçu des mondes astraux la prière du rosaire comme arme spirituelle. Quoi qu'il en soit, avec ou sans les maléfices du rosaire, les exécutants aux ordres des autorités catholiques torturèrent les cathares, leur arrachèrent la langue, les emmurèrent vivants, les laissèrent mourir de faim ou les brûlèrent. Cependant, ils ne furent pas encore totalement exterminés.
Plus de 50 ans plus tard, afin d'encourager leur extermination totale, un autre pape instaura la fête ecclésiastique de la fête Dieu, qui est encore célébrée aujourd'hui. Il déclara alors, je cite, « afin de détruire en particulier la fourberie et la folie des hérétiques ». Il fallut encore environ 200 ans à l'Église pour atteindre en grande partie son ignoble objectif, à savoir l'extermination des cathares, qu'elle appelait les hérétiques. Cependant, l'Esprit de Dieu, lui, ne peut pas être éliminé. Pendant que les cathares avaient à lutter pour leur vie dans le sud de la France, Amalric de Bénat, un savant vivant à Paris vers l'an 1200, enseignait avec ses amis que Dieu est présent en toute vie, dans chaque être humain, dans chaque animal, dans toutes les plantes, dans les minéraux, dans les éléments de la terre et dans toutes les formes de vie. Mais alors, à quoi servent les reliques? Elles sont inutiles. Et à quoi servent les sacrements de l'Église? Ils sont inutiles. Cette vision des choses valut à beaucoup d'entre eux la condamnation à mort. Ce fut le sort de 10 hommes justes des chrétiens des origines de Paris qui furent raillés comme étant la secte de l'esprit libre. Ils furent arrêtés et emmenés hors des murs de la ville. Enchaînés les uns aux autres à la poutre d'un bûcher, ils furent brûlés vifs. De tout temps, des femmes et des hommes justes qui voulaient vivre selon le sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth, et parmi lesquels œuvraient des prophétesses et des prophètes, souffrirent indiciblement. Cependant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit libre, continua à agir puissamment.
À cette époque, c'est-à-dire à partir de la fin du XIIe siècle, Joachim de Flore, un abbé et visionnaire italien, enthousiasmait des personnes dans toute l'Europe. Il avait eu la vision d'une nouvelle ère, l'ère de l'Esprit Saint, dans laquelle les anciennes structures de pouvoir et de violence appartiendraient au passé et où le royaume de paix annoncé par les véritables prophètes de Dieu de l'Ancienne Alliance et par Jésus de Nazareth verrait enfin le jour sur terre. Partout en Europe, inspiré par la prophétie de Joachim de Flore sur la nouvelle ère à venir, des frères et sœurs du libre-esprit, comme on les appelait en Allemagne et dans certains autres pays, se rassemblèrent pour fonder des communautés et des communes du christianisme des origines dans le sillage de Jésus de Nazareth. Walter Nigg, historien spécialiste de l'histoire de l'Église, écrit « Les frères et sœurs du libre-esprit croyaient, je cite, être à un tournant historique où tout ce qui était valable jusqu'alors n'aurait plus de valeur et serait transformé et remplacé par la connaissance véritable qui est à la fois le plus haut niveau de religion et la révélation de l'Esprit-Saint lui-même. Mais l'Église de Rome intensifia de plus en plus la persécution de ceux qu'elle appelait les hérétiques et fit de l'Inquisition une institution officielle de l'Église. Et comme on le sait, ce qui vaut encore de nos jours, la persécution commence toujours par la calomnie, la diffamation et le mensonge à l'encontre de ceux qui ne se soumettent pas à elle. C'est pourquoi, selon le professeur Nigg, les frères et sœurs du libre-esprit sont devenus le mouvement le plus calomnié de toute l'histoire de l'Église.
Au début du XIIIe siècle, le pape donna carte blanche au chanoine Conrad de Marbourg dans sa tâche de berger de l'Église et d'exécuteur de la volonté papale pour l'Allemagne. Sa mission était d'éradiquer les hérétiques du champ du Seigneur, tel que le formula lui-même le pape. Selon Conrad, le mot cathare dériverait de « chat ». Dans l'un de ses mensonges, le premier inquisiteur allemand affirmait que les cathares devaient embrasser un chat en signe de dévotion au diable avant de pouvoir célébrer leurs orgies. Une calomnie sortie tout droit de l'imagination perverse de cet homme d'église ou de ses assistants. Au moins des centaines de chrétiens des origines furent brûlés vifs en Allemagne lorsque Conrad, accompagné d'un inquisiteur dominicain du même prénom que lui et d'un assistant appelé Jean le Borgne, parcourut les villes du Rhin ainsi que la Saxe, la Thuringe et d'autres régions. Du reste, ils n'étaient pas les seuls inquisiteurs.
À propos de cette époque et des dangers qui menaçaient ceux qui sympathisaient avec ceux qui vivaient dans le sillage du Christ, l'historien allemand Karl-Heinz Deschner écrit ceci, je cite, « Sur ordre du pape, les avocats et les notaires qui les assistaient perdaient à jamais leurs fonctions. Ils risquaient même d'être brûlés, tout comme les hérétiques qui refusaient de dénoncer leurs complices. » Aussi, plus personne n'osa prendre la défense d'un accusé, ni même invoquer des circonstances atténuantes, ce qui aurait été considéré comme une défense des hérétiques. Et pour ceux-ci, ou pour ceux qui cachaient des hérétiques, le pape avait prévu les mêmes peines que pour les hérétiques eux-mêmes. Si quelqu'un avait renoncé à la prétendue secte, mais récidivait, il était brûlé sans pouvoir se rétracter une seconde fois. Ce principe se généralisa rapidement. Fin de la citation du texte de Karl-Heinz Deschner, historien allemand de renom.
Comme nul autre, Conrad de Marbourg mit au point une double stratégie véritablement démoniaque, à savoir détruire ceux qui se trouvaient hors de l'Église, tout en essayant d'intégrer à l'Église ce qu'il y avait d'admirable dans leur vie. Il contraignit, par exemple, Élisabeth de Thuringe, issue de la maison royale hongroise, à mettre en place une aide aux malades et aux pauvres au nom de l'Église, ce qu'elle accomplit. En effet, par une humilité mal comprise, elle avait fait vœu d'obéissance totale à l'Église catholique romaine et en particulier à son confesseur, l'inquisiteur Conrad, après que son mari, qui préparait une croisade, fut tombé malade et décédé en Italie. Conrad lui avait même retiré ses 3 enfants et, pour chasser tout reste d'humanité en elle, il la fit régulièrement se déshabiller pour la fouetter sur son corps dénudé. À 24 ans, Élisabeth mourut d'épuisement ou, comme l'écrit le journal allemand Die Zeit, éreintée par la cruauté de Conrad, son directeur spirituel.
Après sa mort, Conrad de Marbourg s'employa sans attendre à la faire canoniser. Elle est aujourd'hui vénérée comme sainte nationale allemande et patronne de la Caritas, une œuvre sociale allemande, par les croyants qui l'invoquent dans leurs prières. Pendant son mandat d'inquisiteur, Conrad reçut lui-même les éloges les plus enthousiastes du Saint-Siège à Rome, qui le considérait comme, je cite, un homme de vertu parfaite et un messager de la foi chrétienne. Cette double stratégie, certains assassinent, d'autres apportent leur soutien, fut également appliquée en Italie au célèbre François d'Assise. En effet, le pape l'obligea à fonder un ordre religieux, mais beaucoup de ses confrères, appelés les frères apostoliques ou franciscains spirituels, refusèrent de se soumettre à l'Église de Rome. Ils vivaient dans le sillage de Jésus, d'abord en tant que paysans et artisans, retirés dans les montagnes, sans possession matérielle, ce que le pape Joseph Ratzinger, qui critiquera plus tard de manière méprisante, parlant d'un chemin menant à l'anarchie.
Lorsque l'Église romaine fit assassiner les premiers frères apostoliques pour désobéissance à l'autorité ecclésiastique, ceux-ci ripostèrent par une violence croissante. Toutefois, frapper son prochain avec une épée, même pour se défendre en période de persécution, ne faisait pas partie de l'enseignement donné par les messagers de Dieu œuvrant dans le courant du christianisme des origines. Jésus de Nazareth lui-même avait clairement mis en garde « Celui qui prend l'épée périra par l'épée ». Le pape appela alors à une croisade d'extermination des frères apostoliques qui se défendaient. Cette croisade, une de plus dans la série des massacres ordonnés par l'Église, atteignit son but avec la mise au bûcher des derniers franciscains spirituels, dits fraticelles.
Pour tous les pionniers du royaume de Dieu, pour tous les premiers chrétiens pacifiques qui le restaient, il était souvent très difficile, voire impossible, de rester en vie. À cette époque, les béguines, qui n'étaient pas toujours persécutées et étaient parfois tolérées, représentaient un refuge. Il s'agissait d'une association libre de femmes qui œuvraient ensemble dans l'amour pour Dieu et pour le prochain, hors de la hiérarchie ecclésiastique. Ce mouvement existait dans toute l'Europe. Parallèlement, les hommes se rassemblaient sous le nom de Bégards, dans le même but. Parmi eux, œuvraient également des messagers de la parole prophétique. Au XIIIe siècle, la prophétesse Mechtilde de Magdebourg faisait partie des béguines. Elle s'était enfuie du château de son père qui faisait partie de la noblesse, où elle avait douloureusement vécu de près le système féodal et corporatif médiéval, avec la richesse des classes supérieures et la pauvreté extrême du peuple. Pour échapper à l'hostilité menaçante, elle se retira, presque comme dans une cachette, dans un couvent où elle reçut des messages prophétiques sur le Dieu d'amour qu'elle consigna par écrit sous le titre « La lumière fluente de la divinité ». Celle qui avait fait partie de la noblesse justifiait sa pauvreté volontaire par ces mots, je cite, « Les biens terrestres sont trompeurs quand on les prend, mais ils rendent libres quand on les donne ». Ces critiques à l'égard de la vie monastique et de l'Église étaient également connues.
Les frères et sœurs du libre-esprit ne formaient pas un mouvement uniforme, mais des communautés libres auxquelles l'histoire associe également les béguines. Marguerite Porrette, née au milieu du XIIIe siècle dans le Hainaut, l'actuelle Belgique, est également considérée comme une béguine. Elle était intérieurement reliée au royaume de Dieu. À partir de ses visions intérieures, dans son livre intitulé « Le miroir des âmes simples », elle exposa et enseigna un chemin intérieur en 7 étapes permettant de retourner à Dieu. Chacune de ces 7 étapes serait un aspect de la vie dans la noble existence éternelle, jusqu'à ce que seule la volonté de Dieu s'accomplisse à la fin. À la 5e étape, l'âme parvient à la liberté intérieure. Marguerite soulignait qu'alors, un intermédiaire n'était plus nécessaire entre l'âme libérée et Dieu, car l'âme était désormais en relation directe avec le monde divin. Toutefois, selon Marguerite, cela ne signifiait pas pour autant se détourner du monde extérieur. Grâce à ce chemin intérieur, l'amour de Dieu pourrait même gouverner un pays. Selon Marguerite, Dieu lui-même et son amour étaient les auteurs du chemin spirituel qu'elle enseignait.
Lorsque l'Inquisition catholique eut connaissance de son livre, elle fit arrêter et emprisonner Marguerite. Lors du procès qui s'ensuivit, la messagère de Dieu déclara que les 26 hommes d'Église, 21 théologiens et 5 juristes ecclésiastiques, étaient incompétents pour traiter du sujet de la présence de Dieu, et elle refusa de parler devant eux. Les représentants de l'Église, exclusivement des hommes, constatèrent ensuite que les écrits de Marguerite contredisaient l'Eucharistie, c'est-à-dire la doctrine de la scène, et ils optèrent pour une démonstration de force impitoyable à l'égard de la messagère de Dieu. À l'âge d'environ 50 ans, Marguerite fut brûlée vive sur le bûcher à la Pentecôte 1310 à Paris, en face de l'actuel Hôtel de Ville, afin de dissuader quiconque d'oser dorénavant contredire les papes ou les évêques, ne serait-ce que sur l'un de leurs dogmes. Une fois de plus, une femme juste, traductrice de la parole de Dieu, fut atrocement assassinée à l'instigation de l'Église romaine. Mais l'Église voulait également et à tout prix détruire la parole, ce qui dans ce cas signifiait la confiscation de tous les exemplaires du livre de Marguerite, l'interdiction de sa diffusion sous peine de mort, ainsi que la recherche et la destruction de tous ses livres partout en Europe. Seuls quelques exemplaires échappèrent à la destruction, car ils furent transmis sous le nom d'un autre auteur.
Selon l'un des inquisiteurs, l'enseignement du christianisme des origines transmis par Marguerite était identique à celui des frères et sœurs du libre-esprit actif dans le nord de l'Italie. Une fois de plus, éliminer l'esprit. Tel est, depuis des siècles, l'objectif constant du pouvoir ecclésiastique, c'est-à-dire du système Baal, qui, aujourd'hui encore, soumet tout à ses dogmes, ses sacrements et sa hiérarchie. Par crainte que d'autres femmes puissent bientôt enseigner des choses similaires à celles de Marguerite Porrette, toute forme de recherche théologique fut désormais strictement interdite à toutes les béguines, c'est-à-dire à toutes les sœurs du libre-esprit. On leur interdit notamment de rechercher d'anciens témoignages de la parole prophétique donnée dans les communes des origines.
À l'époque où Marguerite fut assassinée, le théologien allemand Eckhart enseignait à l'Université de Paris. Les livres d'histoire le qualifieront plus tard de mystique et de maître Eckhart. Tout comme les chrétiens des communes des origines, il aspirait à faire l'expérience de la présence de Dieu en lui et en toute vie, et plaçait notamment sa confiance dans les paroles de Jésus de Nazareth « Le royaume de Dieu est en vous ». Il fut également la cible de l'Inquisition catholique et un procès fut intenté contre lui dans le diocèse de Cologne en Allemagne. Eckhart mourut 18 ans après l'assassinat de Marguerite Porrette sur le bûcher, avant que le tribunal papal d'Avignon ne puisse rendre son verdict.
Le royaume de Dieu a régulièrement trouvé des moyens de faire connaître à l'être humain ce que signifie véritablement être dans le sillage de Jésus. Ce fut le cas quelques années après la mort de Marguerite et Descartes, à travers Catherine de Sienne, XIVe siècle, en Italie. Originaire d'un milieu pauvre, Catherine de Sienne reçut la mission, lors d'une vision, de détruire l'orgueil des puissants de l'Église. Selon les paroles rapportées, le Christ lui aurait dit directement « L'amour pour les êtres humains te reliera encore plus fortement à moi ». La jeune femme s'éleva surtout contre les prêtres qui trompaient les êtres humains. Par exemple, lorsqu'elle leur reproche d'être devenus, au lieu de se convertir, des sangsues des âmes, et lorsqu'elle déplore que l'odeur nauséabonde des porteurs de soutane se répande dans le monde entier.
Selon les érudits de l'Église, le Christ aurait également appelé, à travers Catherine de Sienne, à l'obéissance envers le pape, même s'il était, je cite, « un diable incarné ». Mais est-ce possible? Ou, en d'autres termes, qui lui a éventuellement attribué ces paroles? Ou encore, qui a falsifié ces paroles? Tout comme Hildegarde de Bingen l'a été récemment, Catherine de Sienne a été proclamée docteur de l'Église au XXe siècle, ce qui, comme nous l'avons évoqué auparavant, équivaut, pour une prophétesse de Dieu, à une dégradation et à un dénigrement. En effet, la parole prophétique de Dieu vient du royaume de Dieu, de la patrie éternelle. Elle est différente de ce que veulent les prêtres et les papes. Par conséquent, les prêtres n'ont intégré dans leurs enseignements religieux que des extraits censurés ou falsifiés de la parole, s'appropriant ainsi les prophétesses de Dieu pour leur institution et les rabaissant au rang de docteurs de l'Église. En Suède, au XIVe siècle également, alors qu'elle se trouvait dans la nature et regardait le ciel, une femme de la noblesse nommée Birgitta perçut la voix du royaume de Dieu, ce qui l'effraya. Elle entendut ces mots « Je suis ton Dieu, je veux te parler. Sache que je ne parle pas seulement pour toi, mais pour le salut de tous les chrétiens. C'est pourquoi, écoute ce que je te dis. »
Selon Birgitta de Suède, le pape siège sur le trône de l'arrogance, c'est-à-dire un trône d'orgueil, de vanité et de fierté présomptueuse. Elle déclara également à tous les dignitaires ecclésiastiques « Je suis lasse de tous les prêtres ». Dans une révélation divine qu'elle donna au sujet de ces hommes qui prétendent pouvoir enfermer le corps du Christ de Dieu dans un ostensoir et dans un tabernacle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob déclara à travers elle « Ils me considèrent comme une idole et m'enferment pour que je ne puisse pas sortir. Ils m'offrent de l'encens en sacrifice, mais cela ne me fait pas plaisir. » Dans son livre « Penseur prophétique », le célèbre théologien Walter Nigg évoque également le message de paix de Birgitta et le résume en ces termes. Elle s'opposait fermement à toute guerre entre les États chrétiens, ce qu'elle considérait être une contradiction en soi. Les croisades médiévales sont en contradiction avec les évangiles et cachent derrière de belles paroles un massacre sanglant. Fin de citation. De cette manière, Birgitta prônait l'enseignement de paix du christianisme des origines. Elle tenta également de jouer un rôle de médiatrice dans la guerre de Cent Ans qui opposait l'Angleterre et la France. Ses efforts furent vains.
Une fois de plus, un nouveau chemin fut pris. Au début du XVe siècle, c'est la jeune Jeanne d'Arc qui influença le cours de cette longue guerre du côté de la France. Selon ses propres dires, tout commença lorsqu'à l'âge de 17 ans, elle reçut des messages adressés au futur roi Charles VII de la part d'un archange et de femmes vénérées par l'Église dans le passé. Les occupants anglais devaient quitter le nord de la France. Cela améliorerait considérablement les conditions sociales de la population française actuelle et future. Les informations diffusées aujourd'hui sur Jeanne d'Arc ne correspondent certes pas en partie à l'enseignement de paix, non violent, de Jésus de Nazareth. Cependant, ce qui est rapporté montre des valeurs éthiques souvent beaucoup plus élevées et beaucoup plus proches du Christ et de l'esprit libre que les aspirations de ses adversaires. En outre, ceux qui savent qui réécrit l'histoire a posteriori, y compris avec des mensonges ciblés, peuvent se demander s'il est vraiment possible que Jeanne d'Arc se soit lancée avec conviction dans des batailles, l'épée à la main, ou si elle n'a pas plutôt régulièrement cherché des moyens d'éviter les effusions de sang. Une chose est sûre, après avoir été capturée à l'âge de 19 ans, elle a, elle aussi, été brûlée vive sur le bûcher pour avoir dévié de l'enseignement catholique. Ses dernières paroles, prononcées dans d'atroces souffrances, ont été « Jésus ». Comme on le sait, l'Église a rapidement révisé son jugement de condamnation et l'a annulé, allant même au début du XXe siècle jusqu'à canoniser celle qu'elle avait d'abord fait cruellement assassiner. En effet, du fait qu'elle se soit éloignée de l'enseignement de paix du christianisme des origines, il était très opportun pour l'Église de la récupérer pour son monde ecclésiastique violent, prônant la doctrine d'une soi-disant guerre juste, même si Jeanne d'Arc voulait apporter quelque chose de tout à fait différent sur la terre.
Chers amis, combien d'hommes et de femmes justes, en mission pour le royaume de Dieu sur terre, ont lutté malgré leurs faiblesses pour maintenir une relation intérieure avec le Christ, alors qu'ils souffraient et étaient persécutés. Ils ont réglé leurs aspects pécheurs et, même s'ils sont parfois tombés, ils ont redonné au Christ la possibilité d'agir à travers eux. Et Dieu, l'Éternel, est toujours miséricordieux. Cependant, ce sont surtout les religions qui, jusqu'à nos jours, apportèrent la souffrance et la misère, une misère indescriptible aux êtres humains et à toute vie, en particulier aux animaux, aux innocents, qui souffrent indiciblement.
Grâce au royaume de Dieu, nous savons que Dieu, l'Éternel, est le Dieu de l'amour. Et bien que l'humanité ait sans cesse ignoré sa parole, il lui a régulièrement tendu la main avec la puissance de l'amour à travers sa parole éternelle. Régulièrement, il a envoyé ses prophètes et prophétesses dans le courant du christianisme des origines pour appeler les êtres humains qui s'étaient livrés à des agissements sinistres et à des crimes à se repentir, en rappelant le commandement de la vie « Aime ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Ces paroles du Christ tirées de son sermon sur la montagne sont rapportées dans les Bibles, tout comme ces paroles réconfortantes « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour avoir choisi la bonne cause, car le royaume de Dieu leur appartient. » C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de cette rétrospective, nous commémorons avec amour, humilité et gratitude tous les messagers de Dieu, ces femmes et ces hommes justes et courageux, qui, malgré la persécution mise en place par le pouvoir ecclésiastique, ont avancé sans faiblir et ont suivi les traces du Christ, même après les avoir parfois momentanément perdus. Ils ont donné leur vie pour que se réalise sur cette terre ce que le prophète Isaïe avait annoncé dans l'Ancienne Alliance, un royaume de paix dans lequel les êtres humains, les animaux et toutes les créatures de Dieu vivent ensemble en paix. Je cite « On ne fait plus aucun mal et on ne commet plus aucun crime sur toute ma montagne sainte, car la terre est emplie de la connaissance du Seigneur, comme la mer est remplie d'eau. »
Chers amis, la parole prophétique donnée dans le courant du christianisme des origines en de nombreux lieux de cette terre pendant des siècles a préparé l'atmosphère, de sorte qu'elle peut, aujourd'hui, être diffusée dans le monde entier grâce à d'innombrables radios et télévisions. Nous vivons encore une période de grâce unique. Les cruautés et les attaques répétées des représentants de l'Église et de l'État contre les communes des origines et les véritables messagers et messagères de Dieu au cours de tous les siècles n'ont pas pu éliminer l'esprit et stopper ce courant. L'appel prophétique à rebrousser chemin, fondé sur l'amour de Dieu, se fait également entendre à notre époque. Il s'adresse à tous, y compris ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, usurpent et exploitent honteusement le nom du Christ dans leurs actes et leurs paroles. Chers amis, nous arrivons à la fin de la deuxième partie de notre série dont je rappelle le titre « La parole prophétique dans le courant du christianisme des origines, aujourd'hui et à toutes les époques, et la tentative d'éliminer les communes des origines, tous ceux qui étaient dans le sillage de Jésus de Nazareth ». Nous vous invitons chaleureusement à nous retrouver pour la prochaine partie de cette série et prenons maintenant congé de vous. Au revoir et une chaleureuse salutation en Dieu.